C'est un fil rouge. C'est un fil rouge. Un fil rouge, ça peut être aussi une métaphore qui représente une idée qu'on retrouve de manière récurrente et cohérente, par exemple, dans un livre. Ben, si maintenant on prend la Bible, et puis que je représente la Bible, que je la mets là devant vous, et qu'on imagine un fil rouge qui traverse toute la Bible, et qui va au-delà, qui commence à la Genèse, et qui va jusqu'à l'Apocalypse, quelle pourrait être cette idée récurrente? C'est plus qu'une idée, je pense, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, je le pense. Et ce matin, ce sera un peu le fil rouge, de montrer Jésus partout. Et je vais commencer par lire un texte dans l'Ancien Testament, dans Exode, et puis on verra ce qu'il en est. Alors, je le retrouve, ce verset, le voilà. C'est dans Exode 2 en fait, c'est tout au début, il s'agit de Moïse. Hein. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Un Hébreu, ça fait référence à Héber. Héber, c'est un homme qui était l'arrière-petit-fils de Noé et qui était l'ancêtre notamment d'Abraham. Et voilà pourquoi, de manière générale, on parlait d'Hébreu, aussi pour les enfants d'Israël. Donc, il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien, qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Oula, l'affaire est certainement connue. » Le Pharaon, c'est le roi d'Égypte, apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian, dans le désert. Est-ce que vous avez vu le fil rouge dans ce texte que j'ai lu? Moi, pas. Mais on va prendre le même épisode dans le Nouveau Testament, dans le livre ou l'épître qu'on appelle l'épître aux Hébreux. Hébreux. On ne sait pas qui c'est qui l'a écrit, cet épître. Mais on sait que c'est quelqu'un qui était fondé dans la foi en Jésus-Christ. C'était peut-être Paul. C'est du niveau de Paul. Et on ne sait pas à qui ça s'adresse, ce livre aux Hébreux, sinon que ça s'adresse à des Juifs, donc à des Hébreux, des Juifs qui étaient un peu moins fondés, moins sûrs que l'auteur. Alors, je lis ce même passage, mais dans cette lettre aux Hébreux, d'ailleurs, c'est dans le chapitre le plus célèbre de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire le chapitre numéro 11. C'est le chapitre de la foi. La foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, sauf erreur. Hein. Et là-dedans, dans ce livre, à un moment donné, il y a une liste des hommes de foi. Et Moïse, bien sûr, est dedans. Et je lis l'étape, justement, quand Moïse était grand. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. » Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Est-ce que vous avez vu le fil rouge dans ce texte? Moi, je ne l'avais pas vu aller forcément, mais... Récemment, effectivement, m'a frappé. C'est le mot, puis j'ai lu un peu vite exprès, c'est le mot Messie. Messie, c'est qui? C'est le Christ, c'est Jésus-Christ, Jésus le Messie. Pourquoi une fois Christ, pourquoi une fois Messie? C'est la même chose. En fait, je ne sais pas pourquoi les traducteurs ou les réviseurs de la traduction de cette Bible, ont traduit de temps en temps, n'ont pas traduit Christ et ont mis Christ, puis des fois ils ont mis Messie. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui compte, c'est de savoir ce que ça signifie. Et qu'est-ce que ça signifie ? Bien, ça fait référence, le Messie ou Christ, à l'action de verser de l'huile sur la tête de quelqu'un pour le nommer dans une fonction. Par exemple, le souverain sacrificateur, il recevait cette huile, on disait « il est oint » pour être sacrificateur. David, la même chose. David a été nommé roi, un prophète, a versé de l'huile sur sa tête et l'a oint roi. Et on sait que Jésus, il est le sacrificateur pour nous. C'est lui qui s'est même sacrifié lui-même pour nos péchés et Jésus est roi. Il a dit « mon royaume n'est pas de ce monde, mais le royaume existe, le roi existe et il vient ». Donc voilà le Messie. Tout le sens. Et donc Moïse, qui est là, qui, il faut dire que maintenant, pour quand même donner sa situation, il fait partie de la famille royale, donc il a une vie de prince. Hein. Et on pourrait dire que c'était comme la jet set. Il y a quelques années, j'étais à Paris avec Priscille, auprès des Champs-Élysées, et là, il y avait une voiture immatriculée avec pays arabe. Deux jeunes clinquants là-dedans qui roulent, donc décapotables, et qui s'arrêtent devant un bar. Le conducteur se lève et va au bar. Celui d'à côté fait le tour de la voiture et vient s'asseoir à la place. Et en fait, reste en pleine rue, en plein Paris. Et puis Priscille me dit, t'as vu ça ? Ça, c'est typiquement un prince du pays des Golfes, mais jeune, jet set, qui va au bar, qui va fêter. Et puis son chauffeur, qui visuellement est presque comme lui, ben lui, il reste au milieu de la rue. Voilà. La jet set, ces gens-là se sentent, je ne vais pas dire tout permis, mais enfin, c'est différent. Hein. Donc ils sont riches à l'infini. Et Moïse était dans ce cadre-là. Mais il savait qu'il était hébreu au départ. Et donc, quand il a vu son frère ou ses frères hébreux souffrir, c'est là qu'il a accepté de quitter cet univers artificiel pour être humilié. Et il est mis justement que pour lui, c'était déjà une manière de s'identifier au Messie. Et voilà, c'est pour ça que je dis, le fil rouge, on le trouve dans des événements pas forcément attendus. Voilà, je vous racontais autre chose, maintenant c'est dans Genèse, ou disons ça autrement. Les Hébreux, on dit aussi les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Comment est-ce qu'ils sont venus ? Et pourquoi on dit enfants d'Israël ? Voilà, et c'est ça que j'aimerais non pas lire, mais que je vais vous raconter. C'est l'histoire de Jacob. Jacob, bien des années avant, qui était en Canaan, et voilà qu'un jour, il a la terreur de sa vie. L'angoisse même, parce qu'il était déjà avec une famille, avec tout son clan, comme nomade, qui se déplaçait, et voilà qu'il apprend que son frère vient vers lui avec une armée. Et son frère, il avait de bonnes raisons à vouloir tirer vengeance de Jacob. Donc il a eu la terreur de sa vie et une angoisse terrible. Et il s'est préparé à cette rencontre qui devait avoir lieu le lendemain, et le soir, il s'est retiré. Enfin, retiré, il était dans la nature, dans le noir, et avec son angoisse, et soudain, il voit un homme qui est là. Et cet homme est là, et il y a une lutte qui commence à se faire entre les deux. Et il lutte toute la nuit dans des circonstances qui doivent être terribles quand même. Et à la fin de cette nuit de lutte, l'homme qui est là, il réalise qu'il ne va pas être vainqueur vis-à-vis de Jacob. Et cet homme lui donne un coup là où ça fait mal. Et puis il lui dit, à Jacob, il lui dit, laisse-moi partir. Jacob, il dit non. Parce que dans cette lutte, il a réalisé quelque chose, ne me demandez pas comment, pourquoi, c'est dans la Bible, il a réalisé que cet homme avait le pouvoir de le bénir par rapport à cette circonstance terrible. Et Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Et puis cet homme lui a dit, ouais, mais t'es qui toi ? Tu t'appelles comment ? Jacob. Eh bien, dorénavant, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. dans l'Israël, il y a le mot Dieu dans les langues sémitiques, El, Israël. Il lui dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et c'est pour ça que tu t'appelles Israël. Israël veut dire lutter avec Dieu. Mais Jacob, il a été interloqué, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis Jacob, il dit à cet homme, mais toi, c'est, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Et puis cet homme a dit, mais pourquoi tu demandes qui je suis? Et il l'a béni. Et c'est ça que Jacob voulait. Il a été béni et il est parti. Et Jacob a été troublé. Il a dit, quoi? J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Dieu face à face, ma vie a été sauvée. Il y a aussi pour moi un mystère, il est parlé, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, bon, c'est le Fils de l'homme. Jésus, c'est Yeshua, Dieu sauve. J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. C'est pour ça que je dis fil rouge. Et c'est intéressant parce que voilà, c'est l'origine du mot Israël. Hein. Et puis moi, je me dis, mais il a été vainqueur, si on veut, Jacob, curieusement, mais pas vainqueur dans le sens qu'il a pu battre cet homme. Il a été vainqueur parce qu'il a arraché la bénédiction. Et c'est ça qu'il voulait, et il l'a eu. Et ce nom est venu sur lui et sur ses descendants. Voilà, et puis ensuite, il était réfugié climatique en Égypte, et en étant là, ses enfants et les petits-enfants, etc., sont restés, et petit à petit, c'est devenu un grand peuple, ces enfants d'Israël, en nombre. Il y a l'image, et ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, bien sûr, mais on peut le dire, Israël, les enfants d'Israël, c'est un peuple qui est né, oui, en captivité, mais qui est né au sein d'un autre peuple. Je pense que c'est assez unique, ça. Et c'est l'image un peu d'un embryon qui devient un fœtus dans le ventre de sa maman pendant un certain temps, puis un jour, il naît. C'est un petit peu ça, l'image des enfants d'Israël. Et c'est dans ce contexte que, après, donc, ce peuple est devenu puissant, et puis le pharaon, le roi, a réalisé cette puissance de ce peuple et en a eu peur à quelque part. Et puis a voulu le contenir, et il a fait deux choses. Il les a mis à l'ouvrage, c'est-à-dire esclaves, comme ça, hein, c'est une opportunité pour utiliser la force. Et puis, en même temps, il a eu cette idée diabolique de dire, pour contenir, pour faire une régulation des naissances, eh bien, on va supprimer la vie des enfants mâles. S'il y avait eu l'IVG à l'époque, l'interruption volontaire de grossesse, peut-être qu'à 3 mois, il aurait ordonné des échographies et puis il aurait procédé à des avortements de garçons. Là, ce n'était pas bien sûr la technique, mais finalement, il a attendu la naissance et puis c'est un peu du pareil. Donc vous regardez, c'est un garçon et vous interrompez la vie. C'est aussi une interruption volontaire de la vie, mais à la naissance. C'est curieux, donc cette idée, enfin c'est curieux, c'est dramatique de vouloir tuer les garçons. Ça fait penser un tout petit peu à la naissance de Jésus à Bethléem, quand le roi Hérode a pressenti ou a eu peur d'un roi qui allait naître et qui a fait tuer tous les enfants. Et on a cette similitude avec Moïse, ou peut-être spirituellement, pas seulement lui, mais peut-être aussi, je dirais, Satan, a réalisé que dans les enfants qui naissaient là, il y avait un, entre guillemets, danger, il y avait un libérateur. Bref, ça a été planifié, il y a eu des stratagèmes pour pas que ces enfants soient tués. Et puis ici, on arrive de nouveau à l'histoire de Moïse. Hein. Puis je veux juste lire là. Aussi 2-3 mots à ce sujet. C'est dans Exode 2. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Moi, j'ai souvenir, puisqu'on sait qu'il y a 65 ans que je suis né dans cette église, que j'avais reçu une fois un livre d'images avec l'histoire de Moïse. Puis il me semble me souvenir que c'était des jolis dessins, qu'il y avait un petit panier. Je ne sais pas s'il y avait, non, il n'y avait peut-être pas un nœud rose ou bleu. Il y avait sa sœur, il y avait, bref. Voilà. Mais en fait, si on se remet dans la situation, nous, on sait tout, mais eux, ils ne savaient rien. J'entends la mère. Vous imaginez ce côté dramatique d'abandonner son bébé dans une caisse fermée, là. Je vais vous lire aussi la même étape dans Hébreux, puisque déjà je fais cette relation. Et Hébreux, toujours 11, hein, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau, et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. » En lisant dans le Nouveau Testament cette histoire, il y a des éléments nouveaux qui viennent. C'est par la foi. Ah bon ? Et donc il s'agit des parents, de la maman notamment. Et il dit qu'ils ont vu que l'enfant était beau. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ruth et moi, on a 5 enfants. Je vais vous faire une révélation. Ils étaient tous beaux. Et mieux, ils étaient plus beaux que les autres. Ceux qui sont parents, ils comprennent. Hein? Donc, de là à dire que c'est la foi qui fait voir que notre enfant est beau, non, c'est naturellement qu'on voit qu'il est beau. Mais qu'est-ce que vient faire cette notion de foi ? Je ne sais pas exactement, mais je donne une piste, ce n'est pas tout à fait peut-être ça, mais « beau » en hébreu, je crois que c'est « tov », et la première fois qu'on voit ce mot « beau » dans la Bible, c'est à la création, la lumière. Dieu a fait la lumière et il vit que la lumière était bonne. C'est le même « beau ». Ou bien il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. « Bien », c'est le même « beau ». Alors, il y a quelque chose de très fort. Ce n'est pas seulement mignon, ce « beau ». C'est « beau » et moi je pense que la maman et aussi le papa, les parents, ont vu par la foi qu'il y avait une destinée sur cet enfant. Et ils l'ont sauvé, pas seulement parce que c'était leur enfant, parce qu'ils allaient le perdre à quelque part, mais parce qu'ils ont par la foi vu qu'il fallait le sauver. Et ils l'ont sauvé. Donc, dans le sens que si je lis la suite de l'histoire, « Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante le prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et prise de pitié pour lui, elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, donc il y avait la sœur qui était Myriam, la sœur de l'enfant, Moïse, et puis il y avait le stratagème, si on veut. Puis elle dit, « Ah, c'est un enfant. » La sœur dit, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les enfants des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» Et puis la fille du Pharaon dit, « Ben oui, vas-y. » lui répondit la fille du Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit à la mère, elle ne savait pas que c'était la mère, « Emporte cet enfant, allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita, mais quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, « Je l'ai retiré de l'eau. » Je l'ai sauvé de l'eau, on peut dire qu'il l'a sauvé de la noyade. C'était quand même dramatique. Alors, c'est quand même frappant de se dire qu'il y a ce roi, ce pharaon criminel qui veut tuer les enfants, et c'est sa propre fille qui sauve un Hébreu, un de ses enfants, qu'elle est consciente, et puis qui non seulement le sauve, mais lui donne le nom. C'est elle, ce n'est pas une juive, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas une israélite, c'est une égyptienne, la fille du criminel, qui donne le nom à cet enfant, Moïse, Moshe. Et Moshe, c'est un des plus grands prénoms dans le judaïsme, et aussi comme personnage. Et on voit les choses touchantes dans d'autres histoires aussi, c'est qu'il y a des choses illogiques. Je veux dire, il y a bien sûr Israël, il y a bien sûr cette bénédiction, et il y a toujours des gens qui interfèrent de l'extérieur, et cette fille de Pharaon, elle a eu son rôle, et je pense sa bénédiction aussi. Bien. Là, je dirais, ouais, bon. On va passer plus loin. Et vous savez, après que Moïse a été dans le désert, 40 ans après, Dieu lui a parlé, comme il parlait à Jacob, et il lui a dit, va vers le nouveau Pharaon, parce que 40 ans, il y a toutes des générations qui ont passé, mais l'esclavage continuait. Et Dieu a dit à Moïse, à Moshe, à Moïse, il lui a dit, va vers Pharaon et dis-lui, let my people go. Laisse aller mon peuple. Pourquoi le dire en anglais, let my people go? À cause de ce chant extraordinaire composé par les Noirs qui ont été esclaves aux États-Unis et qui ont eu la sagesse et l'esprit de chanter ce chant, en fait, qui était aussi un appel à leur libération. Let my people go. Et quand Dieu dit quelque chose, on n'y coupe pas. Si Dieu a dit « laisse aller mon peuple », il faut laisser aller le peuple. Mais le Pharaon à l'époque n'a pas voulu. Et puis, si on reprend maintenant l'image de l'embryon et du fœtus que serait Israël dans ce pays d'Égypte, eh bien c'est un peu comme si on arrive au terme et puis qu'il y a les contractions. On sait qu'une femme a les contractions pour amener à la naissance, et que c'est dur. Et on pourrait dire, l'Égypte a vécu ces contractions qui sont des fléaux, on parle des 10 fléaux, on ne va pas les passer en revue, mais j'aimerais aller juste sur le dernier fléau terrible qui a été la dernière contraction qui a éjecté cet Israël hors de son esclavage. Et là, ça se trouve un peu plus loin. Et puis, Dieu qui parle avec Moïse, relativement en direct, il lui décrit ce qui va se passer à cette dernière contraction. Il dit « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » C'est terrible, cette parole. Elle fait « Comment est-ce possible ?» Je fais remarquer, ou disons ce que Marc, c'est que dans ces jugements, il y a aussi les jugements des dieux de l'Égypte. Et ça, c'est quelque chose que peut-être on n'a pas la notion. Nous, on vit dans notre monde terre à terre, avec les circonstances, et on ne voit pas qu'il y a aussi un monde spirituel. Et que ça se joue aussi dans ce monde spirituel. Et là, dans cette libération de ce peuple, il y avait aussi un jugement spirituel sur les dieux d'Égypte. Et puis là, parallèlement, Dieu a aussi dit à Moïse, qu'il l'a dit aux Hébreux, aux enfants d'Israël, il dit ce soir-là, et je sais que vous le connaissez, mais des fois on peut le revivre quand même, il dit, ben vous prendrez un agneau, et puis vous le sacrifierez, on prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Et donc, après ce que Dieu a dit, il répète, il dit, pour vous en revanche, donc les Égyptiens auront ce jugement, pour vous en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus. Alors, reprenons la situation. C'est une nuit aussi d'angoisse. Il y aura des décès, il y aura des pleurs. Et puis voilà que, parce que les enfants d'Israël étaient dans une partie du pays. Et là, rien ne se passera parce qu'ils ont mis le sang de l'agneau qu'ils ont sacrifié. Et l'ange destructeur est passé par-dessus. En hébreu, passer, c'est Pessah. Je trouve ça intéressant parce que c'est un peu presque le même mot qu'en français. On a cette chance, comme ça on se souvient. Passé, Pessah, Pessah, Pâques. Pâques, ça veut dire passé. Quand on parle de Pâques, Ça veut dire passer, passer en dessus, ne pas nous toucher, on reste dans la paix. C'est une bénédiction extraordinaire. Et peut-être je fais encore une petite parenthèse maintenant, puisqu'on a parlé des Égyptiens. Ce n'était pas prévu, je l'improvise, mais je regarde de temps en temps des chants de louanges. Et il y a des vidéos avec des chants de louanges d'Égyptiens qui chantent. Et c'est fantastique. Comme ils chantent Jésus, et ça dégage quelque chose. Et c'est juste pour dire qu'il y a des fois des textes durs. Mais la bénédiction, elle est pour tout le monde. Et y compris pour les Égyptiens. Ouais. Alors, c'est tellement important cette libération, parce que vous savez qu'ils sont sortis, suite à ça, Pharaon a lâché, et ils sont partis. Et Dieu a dit, justement, vous vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Autrement dit, c'est Pâques. Il a dit, vous vous souviendrez de ce passage extraordinaire, vous raconterez à vos enfants, et c'est Pâques. Et donc, les enfants d'Israël, les Juifs, ont plus ou moins régulièrement fêté cette Pâque, jusqu'au temps de Jésus. Et quand Jésus était là, dans ce pays, bien entendu, en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, il a fêté cette fête, Pessah, qui fait allusion à la sortie d'Égypte. Et un jour, avec ses disciples, il était là, c'était le temps de Pâques, et puis il a dit, allez préparer la Pâque, comme d'habitude, en toute simplicité. C'était pas... Ils sont allés dans ce local, hein, où ils ont préparé le repas, et puis ils ont commencé à manger en souvenir de cette Pâque, et vous connaissez l'histoire, mais remettez-vous, à ce moment-là, les disciples qui étaient là, eux, ils ne savaient rien. Ils ne savaient rien. Et voilà que Jésus, d'un coup, il prend le pain, oui, ça c'était encore normal, et il distribue, et il dit, mais prenez ça, c'est mon corps. Prenez ça, ceci est mon corps. Moi, j'imagine les disciples en train de manger, puisqu'ils étaient en train de manger, qui s'arrêtent, qui se regardent. Il a dit quoi? Il ne s'y attendait pas. Et Jésus, après qu'il prend le vin, qu'il distribue, ceci est mon sang de la nouvelle alliance, et pour le pardon des péchés, on est en train de fêter Pâques. Et donc, on réalise que cette Pâques, cette libération pour Israël, je pense que, un, c'est Jésus qui était présent, parce que ce n'est pas le sang de l'agneau qui les a sauvés, c'est le sang de Jésus-Christ qui les a sauvés, du Messie à l'époque. Mais en plus, le sang de Jésus nous libère nous aussi de l'esclavage. On connaît, hein, j'entends, le fondement de la bonne nouvelle. Donc c'est d'actualité. Voilà. Là, c'est éclatant, hein, le fil rouge, hein, j'entends, on le sait. Hein. Et puis, j'aimerais maintenant encore laisser une parole, enfin, en conclusion, enfin, c'est ça. C'est que quand Jésus a partagé ce repas qui annonçait sa mort 24 heures après, sur la croix, avec tout ce que ça implique, et souvenons-nous, hein, si ça a été à l'époque le jugement des dieux, à combien plus forte raison ce que Jésus a fait, c'est le jugement du prince de ce monde, qui est l'origine de tous nos maux, de tous nos maux. On ne comprend peut-être pas bien, mais Jésus a fait à ce moment-là ce qu'il y avait à faire. Et on sait que depuis ce jour-là, il a dit « faites ceci en mémoire de moi ». Jusqu'à ce que je vienne, ou je n'en boirai plus, jusqu'à ce qu'on soit dans le royaume de Dieu. Si on reprend dans 1 Corinthiens, ça a été, je crois, mentionné aussi dimanche passé, c'est dit, donc faites ceci en mémoire de moi, c'est Paul qui dit, toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a cette notion, c'est pas de se souvenir seulement de ce moment-là, de victoire, mais jusqu'à ce qu'il vienne, parce que le Messie va venir. On va dire, va revenir, mais ce sera pas de la même manière, puisque quand Jésus est parti au ciel, il regardait et les anges sont venus, on dit, mais pourquoi vous regardez? Il va revenir. de la même manière, en puissance, en gloire. Et donc, ce sacrifice que représente Jésus, c'est aussi la venue de Jésus. Je veux poser une question, c'est un peu pas un test pour savoir si vous savez ou pas, c'est plutôt, ça m'intéresse de savoir dans quelle mesure ce terme est connu. Donc je vais vous dire ce terme, et puis si vous savez, vous levez la main, si vous ne savez pas, vous ne levez pas la main, et puis ce n'est pas grave. Mais si je vous dis, ou bien, qui sait ce que veut dire Maranatha ? Bon, on va dire la moitié ou peu importe. Maranatha veut dire le Seigneur vient. J'ai pensé tout d'un coup à ce terme, et je me suis dit, quand nous, on était jeunes, il me semble qu'on l'entendait souvent, plus dans les chants. Il me semble que maintenant, moins. Ou bien je me trompe, tout d'un coup, c'est plus un terme. Donc Maranatha, c'est un des cinq termes qui sont restés d'origine, donc de l'hébreu ou de l'araméen, et qu'on ne traduit pas. Le premier, c'est Amen. Le deuxième, c'est Alléluia. Le troisième, c'est pour Osvaldo, c'est Abba, hein, papa. Et puis le quatrième, c'est Hosanna. Ça, c'est déjà un peu. Hein. Et puis Maranatha. Voilà, le Seigneur vient. Donc, c'est une espérance extraordinaire. Et en pensant à ça, je pense aussi à la première. Appelons ça comme ça, la première venue de Jésus. On trouve ça dans Luc, où il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, le Seigneur. Il attendait. Voilà. Savoir que Jésus vient, c'est une chose, mais l'attendre, c'est encore un niveau supérieur. Quand Jésus, le Messie, est venu, puis qu'il y avait ce Siméon, on a posé la question aux spécialistes religieux en disant « Mais où c'est que va naître le Messie ?» puisqu'il y en avait qui avaient le pressentiment qu'il allait venir. Et ils ont su. « Ben ouais, il va venir à Bethléem, puis quoi ?» Voilà. Mais ils n'ont pas bougé. Siméon, c'est aussi un juif, mais lui, il attendait. Et il a vu Jésus petit. Et puis il y a aussi cette vieille femme, Anne, 84 ans, pas Anne, mais mais peut-être toi aussi, qui ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui l'attendaient. Voilà. Je vous le dis, j'ai entendu une fois un juif, non chrétien, qui parlait du Messie, et puis qui disait, mais il faut prier le Seigneur pour que le Messie vienne. Il a dit, mais Seigneur, Seigneur, envoie ton Messie, on n'en peut plus. Puis il dit, on n'en peut plus, il va dire, on souffre et tout. Non, on n'en peut plus que les gens ne te connaissent pas. Parce qu'on ne se rend pas compte, on est toujours là, on parle de Dieu, mais on le voit indirectement, mais on ne le voit quand même pas. Et on voyait ce juif qui disait, on n'en peut plus que le monde ne te connaisse pas. Et puis il a dit, je pense presque un lapsus, il a dit, on l'attend depuis 2000 ans. Moi je me dis, pourquoi un juif dit, on attend le Messie depuis 2000 ans? On peut réfléchir, mais nous on sait, voilà, on l'attend. Et des fois je me suis aussi dit, quand on voit cette attitude, on se dit, mais quand le Messie va venir, Jésus, nous on se dit, bon, ils vont être étonnés de l'identité du Messie, parce qu'ils ne pensent pas que c'est Jésus. Oui, nous on ne va pas être étonnés de l'identité, mais il ne faudrait quand même pas qu'on soit étonnés qu'ils viennent, c'est ça. Voilà, à chacun de prendre de la graine, et vous connaissez le mot de la fin de la Bible, chronologiquement, on arrive à l'Apocalypse. Et puis, il y a la formule, le dernier verset, c'est la formule pour finir une lettre, mais le dernier point qui est donné, c'est « Amen, viens Seigneur Jésus ». Dans la prière, on dit, la prière « Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». quand on prie, c'est pour être exaucé. Il y a aussi justement quelqu'un qui disait, si on ne demande pas qu'il vienne, ben il ne viendra pas. Il faut demander. Si Jésus nous a enseigné ça, que ton règne vienne, c'est que ça a un sens. Il faut le faire. Et on retrouve cette prière tout à la fin, justement, de l'Apocalypse. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alors, des fois, on applaudit quand c'est la fin d'un... J'ai remarqué, là, un truc. Je ne sais pas votre intention maintenant, mais n'applaudissez pas. Mais si vous voulez, vous pouvez dire Amen. Viens, Seigneur Jésus.